À l'épicerie, l'enfant, 10 ans, sert les fruits et légumes. Les fruits et légumes, il est en vacances. La petite fille, avec un brin d'herbe, chatouille la plante des pieds de sa mère. Il trouve le tube dans l'armoire à glace et il s'enduit la bouche de rouge à lèvres. Elle se souvient d'avoir été très heureuse à 12 ans. Pas de raison précise. Il s'ennuie beaucoup, sent qu'il n'y tient plus, demande à sortir, s'endort dans les toilettes. S'endort dans les toilettes. Elle allume la télé. On peut voir l'avion survolant l'incendie. Les pompiers. Sur sa tombe, ils ont planté un rosier. Au printemps, il est tout recouvert de fleurs.
Elle suit des yeux les trois silhouettes. Miniature, là-bas, tout au bout du pré. L'enfant seul sur son canot pneumatique poussé par le vent, loin des côtes se noie. Poussé par le vent, loin des côtes. Il interdit qu'on vienne le chercher. Il s'enferme tous les jours dans le garage. Dans le garage. En robe de chambre, chaussée de pantoufles, elle marche tranquille sur le trottoir. Découpe des photos de seins nus. Il en tapisse tous les murs de sa chambre. La fenêtre de l'immeuble d'en face laisse échapper soudain une longue flamme.
téléphones au commissariat. Tu dis, mon fils n'est toujours pas rentré. Mon fils n'est toujours pas rentré.
En silence d'une jeunesse veut s'éveiller. Nous savons tous les deux, que le monde sommeille par manque d'imprudence.
Si, pieds sous terre, jo. Tu es expert en concours. Des nouvelles, le dans mon bas. Je te dis,
musique dans l'église lointaine a cessé. Par la fenêtre ouverte. Par la fenêtre ouverte d'un couple blanc. La myriade de bruits visibles déguisés. Altenwar est assis derrière son bureau. Plus que jamais, il semble gauche comme une bête qu'on aurait jouée, trompée dans son besoin de fuite. Acculé maintenant par ceux qui l'ont joué. Trois autres, assis, lui font face, un peu comme les membres d'un jury. Deux d'entre eux sont immobiles aussi. La femme au visage pétrifié, immobile comme un roc qui attend. Le vieillard avec quelque chose d'épuisé, comme la mèche charbonneuse d'une bougie dont on aurait soufflé la flamme trop violemment. Seul, Byron a l'air d'être en vie. Il baisse la tête. Il semble contempler une de ses mains posées sur ses genoux. Il en frotte l'index et le pousse ensemble, lentement, comme pour pétrir. Il semble réfléchir, perdu dans sa méditation. Quand Hightower parle, Byron sait que ce n'est pas à lui qu'il s'adresse.
Il ne s'adresse à personne
dans la chambre. Que veulent-ils que je fasse? Que pensent-ils? Qu'espèrent-ils? Que croient-ils que je puisse faire? Aucun bruit ne répond. Apparemment, ni l'homme ni la femme l'ont entendu. Byron ne s'attend pas à ce que l'homme entende. Lui, ce n'est pas d'aide dont il a besoin, pense-t-il. Mais plutôt qu'on l'arrête. Il pense, il se rappelle de cet état comateux, de suspension rêveuse, et pourtant aliéné dans lequel le vieillard a erré, un peu derrière la femme, depuis qu'il les a rencontrés 12 heures auparavant. Ce dont il a besoin, c'est qu'on l'arrête. Il regarde la femme. Il dit tranquillement, presque tendrement. Allez, allez, dites-lui ce que vous vouliez lui dire. Il veut savoir ce que vous voudriez qu'il fasse. Dites-lui.
Le monde flotte.
Ces choses, que sont-ils, que connaît-il, tu as dit que peut-être. Je pensais que si
t'appelles ça maintenant? Assis à la fenêtre sombre, dans le calme de ton bureau, attendant la fin du crépuscule, la nuit. La lumière cuivrée vient de s'éteindre. Le monde flotte dans une attente verte, semblable en couleur et texture à de la lumière filtrée par un verre